Bonsoir. Les églises catholiques et protestantes en RDC se sont exprimées sur la situation politique actuelle du pays. La CENCO réaffirme l'urgence des élections et recommande pour cela l'application effective et intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais également la certification de la machine à voter par des experts internationaux pour lever toutes les suspicions. L'église protestante, de son côté, invite au respect du calendrier électoral. Quel est le faire de ces déclarations? C'est la question de l'émission et nous en parlons avec l'abbé Jean-Marie Bomengola. Il est secrétaire de la commission épiscopale de communication sociale de la CENCO. Bonsoir, monsieur l'abbé Jean-Marie Bomengola.
Bonsoir.
Pasteur Marcel Makolokotambola, communicateur de la majorité présidentielle. Bonsoir, monsieur le pasteur Marcel Makolokotambola.
Bonsoir.
Et Christian Moleka, coordinateur de la dynamique des politologues de la RDC. Bonsoir, monsieur Christian Moleka.
Bonsoir, Guy Mathieu.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Continuez à envoyer vos réactions en appelant au 081 890 66 78 ou nous écrire par SMS au 081 051 57 78 et par mail, écrivez-nous à tech@radiookapi.net.
Les évêques catholiques disent être fidèles à leur mission prophétique. Par conséquent, ils n'abandonneront jamais leur engagement pour l'avènement d'un état des droits en République démocratique du Congo. C'est l'essentiel de la déclaration lue ce lundi à Kinshasa devant la presse par la secrétaire générale de la CENCO. C'est à l'issue de l'assemblée plénière extraordinaire tenue du 15 au 17 février. Cette prise de position des pères de l'Église est consécutive à la persistance et à l'aggravation de la crise sociopolitique du pays qu'ils ont analysée lors de cette assemblée plénière extraordinaire. Des détails avec Askin Zigbiatayoro.
Ils sont 39 évêques et archevêques à signer cette déclaration. Ils disent être profondément inquiets par la répression sanglante de deux marches pacifiques organisées par le CLC. Ils ont vivement condamné la violence avec laquelle ces deux marches ont été réprimées. La CENCO s'interroge, quels crimes ont-ils commis ces chrétiens et citoyens congolais qui ont réclamé pacifiquement l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre? D'après ce prélat, l'application actuelle de cet accord est sélective et biaisée. Les évêques pensent que s'obstiner sur cette voie ne peut que conduire à des élections contestables et à de nouvelles crises. Dans leurs recommandations, la CENCO réaffirme l'urgence d'aller aux élections en 2018. Mais pour y parvenir, elle demande avec insistance, entre autres, le parachèvement de mesures de décrispation du climat politique contenu dans l'accord de la Saint-Sylvestre, la redynamisation de la CENI et les dispositions relatives au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC. La CENCO demande aussi aux autorités compétentes d'annuler les édits interdisant les manifestations pacifiques. La CENCO invite par ailleurs la CENI à lever l'équivoque et les suspicions autour de la machine à voter en acceptant sa certification par des experts nationaux et internationaux.
Merci à Askin Zigbiatayoro. De son côté, l'Église de Christ au Congo lève les tons face à la situation de crise que traverse la RDC. Il est temps que l'ECC sorte la RDC du bourbier, du gémissement, a déclaré le président et représentant légal des protestants à l'ouverture de la 53e session du comité exécutif national ordinaire de l'ECC ce lundi à Kinshasa. Le révérend docteur Bokundua Bolikabe a fait un tour d'horizon critique sur la situation sociopolitique du pays et a donné la position de son Église sur les manifestations des catholiques, ainsi que sur les élections à venir en RDC. Reportage de Jeff Ngoui.
Devant les princes de l'Église du Christ au Congo et d'autres fidèles venus assister aux assises de Chaoumba, le révérend docteur Bokundua Bolikabe refuse que son Église serve de caisse à résonance pour quelqu'un. L'Église, dit-il, ne doit plus rester à la traîne face aux actions de ses frères catholiques, mais elle veut en être préalablement consultée et doit réfléchir sur des actions à mener.
Nous subissons une forte pression face aux actions de nos frères catholiques. Il est temps de faire entendre la voix protestante.
Comment expliquer que le courant protestant qui a permis le développement d'autres pays comme l'Allemagne, la Suisse, les États-Unis ne puisse pas booster aussi la RDC? S'interroge le président de l'ECC.
La situation du peuple congolais est un gémissement. Comment expliquons-nous qu'un pays où les chrétiens sont majoritaires, la situation soit celle que nous vivons?
Le pasteur interpelle l'élite protestante sur la transformation intérieure de l'homme congolais.
La plupart de ceux qui gèrent ces pays sont des membres de nos églises. Nous estimons qu'il est impérieux que l'ECC réfléchisse sur le type d'homme qu'elle doit donner à la RDC.
Selon le docteur Bokundua, la CENI est tenue à respecter le calendrier électoral tel que publié pour avoir de bonnes élections en décembre prochain. Dans le cas contraire, son Église se désolidariserait de la centrale électorale.
Merci à vous, Jeff Ngoï, abbé Jean-Marie Bomengola, secrétaire de la Commission épiscopale des communications sociales de la CENCO. Je suis dans votre communiqué, le communiqué de la CENCO. Vous dites inébranlable dans notre foi en Jésus-Christ, roi de l'univers et fidèle à notre mission prophétique. Nous n'abandonnerons jamais notre engagement pour l'avènement d'un état de droit en République démocratique du Congo. Monsieur l'abbé Bomengola, quel est le message que vous voulez faire passer à travers cette pensée?
D'abord, je vous remercie de me poser la question et de me donner l'opportunité de pouvoir éclaircir et expliquer pour ceux qui ne comprennent pas bien certains aspects du message des évêques et quelle en est la teneur. Et justement, par rapport à la question que vous venez de me poser, il est clair que les évêques n'abandonneront jamais leur engagement. Et je peux expliquer cela et vous comprendrez peut-être par des exemples. Les évêques sont des pasteurs qui vivent au quotidien avec la population. Ils partagent les joies et les souffrances du peuple congolais. Ils savent que ce peuple souffre et ils sont conscients que la situation est difficile pour beaucoup de nos compatriotes. Et en tant que pasteur, ils ont une mission d'accompagner ce peuple vers des élections crédibles. Et ils ont pris l'engagement depuis les dialogues du centre interdiocésain où ils se sont engagés et les soucis étaient donc de pouvoir donner à notre pays un cadre qui permettrait donc de bien passer la transition et de préparer les élections. Et voilà pourquoi...
Là, vous faites allusion à l'accord de la Saint-Sylvestre.
Exact. Et voilà pourquoi, donc, ils reviennent à chaque fois pour réaffirmer cet engagement et montrer justement qu'ils ont une mission vis-à-vis de cette population et qu'ils ne doivent pas l'abandonner. Et prêcher l'évangile, c'est aussi veiller à ce que ce peuple qui leur est confié vive décemment.
Et le point 4 de ce communiqué, de votre communiqué, parle de l'application sélective et biaisée de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et à ce sujet, vous affirmez ceci: peut-on prétendre se préparer aux élections apaisées et passer outre les dispositions de la accord de la Saint-Sylvestre qui en sont les préalables? Cela veut dire quoi, monsieur l'abbé, que tout le travail Kabbal Aseni actuellement et dont le mérite est reconnu par beaucoup de gens, beaucoup d'experts, ne pourra déboucher sur des élections apaisées que si l'accord de la Saint-Sylvestre est appliqué dans son intégralité comme vous le souhaitez?
Bon, on ne peut pas dire que la CENI est responsable de tout ce qui se passe dans notre pays. La CENI s'occupe d'un aspect important, notamment la préparation des élections qui vont avoir lieu au mois de décembre de cette année. De l'autre côté, il y a...
La CENI n'est pas responsable, mais le travail qu'il fait est conditionné, n'est-ce pas, par l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre.
J'ai dit que la CENI n'est pas seule responsable. Il y a quand même un gouvernement dans ces pays, et la CENI, c'est une institution qui collabore, c'est une institution d'appui à la démocratie dans notre pays, et qui collabore avec le gouvernement. Mais il y a quand même un gouvernement qui est censé appliquer les décisions qui ont été arrêtées lors du dialogue de la Saint-Sylvestre, et tous les acteurs politiques qui étaient présents à ces dialogues étaient convenus à ce que on puisse remplir un certain nombre de préalables avant d'aller aux élections. Et parmi les préalables, il y a le parachèvement des mesures de décrispation du climat politique, c'est ce que vient de nous rappeler votre collègue ici, Askin, la redynamisation de la CENI, le renouvellement des membres du CESAC, donc les participants avaient donc avaient mis au courant que les membres du CESAC étaient arrivés au terme de leur mandat et qu'il fallait donc renouveler l'équipe. Et alors, il fallait donc renouveler cela. Ça a été acté par tout le monde, mais on n'est jamais passé à l'acte. Il y a également la libéralisation des médias publics et de l'espace politique. Donc, c'est quand même important. Ce sont des préalables. Et si nous nous battons aujourd'hui, c'est aussi, entre autres, pour que nous ayons les droits de manifestation, hein, les droits de manifester. Et c'est pour ça qu'il y a eu des répressions et tout ça. Il y a eu des édits pour ne pas permettre à ce que les gens puissent manifester dans notre pays. Ça, c'est quand même un problème.
Et donc, pour les évêques, si tous ces préalables ne sont pas accomplis, cela pourrait compromettre l'organisation des élections en RDC.
Pas seulement pour les évêques, mais c'est pour vous et moi aussi. Lorsque vous n'avez pas les droits de parler, lorsque vous n'avez pas les droits de bouger, lorsque vous n'avez même pas les droits d'éternuer, vous êtes comme dans une prison. Donc, je crois que la préparation des élections, l'état des droits, la démocratie demande à ce qu'il y ait pluralisme, il y ait liberté d'expression, que les gens puissent s'exprimer. Et je crois que les marches pacifiques sont également une manière pour la population de s'exprimer. À côté de ces marches politiques, il peut y avoir aussi des organisations, des meetings par les partis politiques, la possibilité de pouvoir s'exprimer dans les médias publics et de donner son avis, plutôt que de faire des médias publics les médias d'un parti ou d'un groupe. Je crois que tout ça, c'est important dans un pays qui se dit démocratique et qui se prépare aux élections, qui, à mon avis, c'est quand même une expression de la démocratie d'un pays, et la démocratie, c'est la pluralité, c'est une expression plurielle que l'on doit retrouver.
Monsieur Labbé, vous avez évoqué un certain nombre de préalables. Il y a un nouveau préalable, n'est-ce pas, qui a été ajouté récemment par la CENI, c'est la machine à voter, et par rapport à ça, les évêques recommandent la certification de cette machine à voter par des experts internationaux pour lever tout équivoque et toutes les suspicions. Cela veut dire que la Synco ne s'oppose pas totalement, n'est-ce pas, au recours à cette machine à voter.
Bon, nous avons reçu le président de la CENI qui est venu nous expliquer les avantages de cette machine à voter. Je pense que si mes souvenirs sont bons, le président de la CENI nous disait que avec le recours de la machine à voter, on pourrait économiser des 100 millions de dollars. Ce n'est pas peu, vous vous rendez compte. Alors le problème, c'est que on n'est pas sûr de cette machine. Il y en a qui parlent de machine à voter, il y en a qui parlent d'une imprimante, il y en a qui parlent... Alors, ça va dans tous les sens, on ne maîtrise rien. Il faut qu'on nous donne des garanties. Il faut qu'on nous rassure. Merci. Sur cette machine.
Merci, Pasteur Marcel Makolo-Koutambola, communicateur de la majorité présidentielle. Et comment vous réagissez à cette détermination des évêques catholiques exprimée à travers cette phrase et soutenue plutôt continue dans leur communiqué? Nous n'allons pas abandonner, nous n'abandonnerons jamais notre engagement pour l'avènement d'un état des droits en RDC.
Merci beaucoup de me convier à ce débat. Ben, d'abord, la première chose que je relève ici, c'est que manifestement, les réunions des évêques commencent plus à être des réunions où on parle politique que affaires de l'Église. On ne travaille plus à la conduite des affaires de l'Église, on est suffisamment sur le terrain politique, et je me dis que...
N'est-ce pas que la politique, c'est la gestion de la Respublica, de la cité?
C'est très bien, mais pourquoi ne pas, alors, en ce moment-là, se manifester publiquement comme acteur politique, plutôt que de rester dans la soutane et être plutôt très engagé, y compris avec des termes menaçants. Nous n'attendons pas de nos pères évêques de menaces. Parce que, en fait, l'Église n'est pas là pour menacer qui que ce soit.
Qu'est-ce que vous appelez menace lorsqu'on dénonce les conditions difficiles dans lesquelles vivent les Congolais? Ce que vous appelez menace?
J'ai suivi religieusement mon frère, M. Labbé. Il a dit beaucoup de choses. Et j'ai lu, comme des millions de Congolais, ces documents publiés par les évêques. J'ai trouvé que depuis un certain temps, les évêques se sont plus accoutumés à distiller des messages qui soient plutôt de menaces que toute autre chose. Notre pays n'a pas besoin, au moment où nous nous préparons à aller aux élections, à subir matin, midi et soir une sorte de harcèlement de la part des évêques. Pourquoi je le dis? Parce que La mission de l'Église, c'est évidemment de dire la vérité, d'enseigner le peuple de Dieu et de le préparer à aller au ciel. Ça, c'est la recommandation du Seigneur. Jésus a dit « Allez partout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Et lorsque le peuple a des problèmes, tout ça, une fois, Jésus a donné du pain au peuple. Donc personne ne dénie aux évêques le droit de dire la vérité quand les choses ne vont pas bien. C'est tout à fait leur droit, comme c'est le droit de tout Congolais de dire les choses avec l'énergie nécessaire. Mais il n'appartient pas à l'Église, dans un État laïque consacré par les textes qui base le bon fonctionnement de ces pays, il n'appartient pas à l'Église et aux évêques de s'immiscer comme ça dans les affaires de l'État, y compris en menaçant et en adoptant des langages parfois ordurier. Parce que...
Et qu'est-ce que vous appelez plutôt langage ordurier?
Non, mais nous n'abandonnons rien pas. La dernière fois, c'était la sortie que vous connaissez, on a traité les gens de médiocres. Et aujourd'hui, nous n'abandonnerons pas notre mission. Personne ne dit aux évêques d'abandonner leur mission. La mission des évêques est là, amener les gens au ciel. Arrêtez de vous comporter comme des politiques. Arrêtez, y compris de menacer les gens. Lorsque les évêques disent que les élections doivent avoir lieu en 2018, mais ça c'est déjà dit, il y a un calendrier. 23 décembre 2018, il y aura élection. Le gouvernement de la République, parce que mon frère a dit qu'il n'y a pas que la CENI, le gouvernement est aussi là. Ben, je vous dis que le gouvernement de la République s'organise, donne des moyens pour que la CENI fasse son travail et l'argent nécessaire est mis de côté pour que nous ayons ici, dans ce pays, les élections. Ça,
oui,
c'est une chose.
Vous évoquez les élections, les évêques soutiennent, n'est-ce pas, les processus électoraux, mais ils estiment que ces élections ne pourraient se tenir de façon apaisée que si certains préalables sont accomplis, notamment la mise en application intégrale de l'accord.
Attendez, j'y viens. Regardez mon cheminement. Des préalables. Non, ça n'est pas aux évêques de dire, ben, si vous ne faites pas ça, il n'y aura pas ça. C'est pas le rôle des évêques. Le rôle des évêques devrait être, d'abord, de dire, écoutez, nous avons vu votre, un peu comme nos frères protestants l'ont dit, il y a un calendrier, nous vous exhortons à tout faire pour qu'il y ait ces élections, mettez de l'argent. Mais lorsque les évêques disent, ok, si vous ne faites pas la décrispation, si vous ne faites pas la décrispation, entendez par là, si vous ne libérez pas, y compris des violeurs, des petits-enfants. C'est ça, c'est ce qui devient terrible. Quand quelqu'un dans ce pays qui est réputé maintenant, comme la capitale du viol. À travers le monde, on nous connaît désormais comme la capitale du viol. Ce qui n'est pas un diplôme pour lequel il faut se réjouir. Il faut sévir, que la justice passe. Et dans ce pays, nous connaissons ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. La justice arrête quelqu'un. Oui, parce que nous sommes habitués maintenant dans ce pays. Vous tuez les gens, on vous appelle au gouvernement, vous devenez ministre, c'est normal. Et on veut normaliser quelque chose qui est plutôt du registre de délits. Non, il ne faut pas faire pression de cette manière-là à la justice parce que... Monsieur
Makolo Koutambo, vous n'allez pas dire ici que tous ceux qui sont encore en prison, qui ne sont pas encore libérés, n'est-ce pas, les prisonniers politiques, sont tous, ont tous commis les viols.
Je n'utiliserai pas les propos des prisonniers politiques.
On ne libère pas d'autres qui n'ont pas commis
les
viols.
D'abord, les processus continuent. On en a libéré quelques-uns auparavant. Tout le monde le sait. Le processus est en train de continuer. On va libérer les gens. Mais je ne suis pas d'accord avec les termes prisonniers politiques. Il n'y a pas de prisonniers politiques.
Évidemment,
il y a des hommes politiques en prison.
C'est discutable.
Donc il faudra d'abord que nous soyons d'accord. Avec l'utilisation du mot.
Il n'y a pas de prisonniers politiques.
Il y a des politiciens en prison. Donc, si quelqu'un a commis une faute, il faut qu'on arrête dans ce pays d'absoudre les gens que la justice condamne.
Christian
Ça,
Moleka,
c'est quelque chose d'important et je tenais à le dire.
Christian Moleka, coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. La CENCO et l'Église protestante réaffirment leur soutien au processus électoral, mais à certaines conditions pour les évêques catholiques. La réussite de ces élections est conditionnée par l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et pour les protestants, les respects stricts du calendrier électoral. Comment vous analysez ces deux déclarations?
Je constate qu'il y a des éléments de convergence dans les deux déclarations, notamment le fait qu'ils ont tous déclaré que l'Église ne devait d'être sous les bannières d'une quelconque formation politique. Les évêques protestants l'ont dit, que l'Église ne devait pas être une caisse de résonance pour un parti politique. Les catholiques l'ont rappelé. C'était un mise au point important parce que il y a quelques jours, senti une communication assez controversée autour de M. Jean-Marc Kabound, qui a fait une déclaration comme quoi il y aurait un partenariat entre l'UDPS et l'Église. Et je crois que la mise au point faite par le clergé, si vous lisez le communiqué, où il y a d'abord un saut mise au point là, sur la neutralité de l'Église.
L'Église n'est pas inféodée.
C'était justement pour répondre à cette communication qui était assez controversée. Et puis après, il y a le processus électoral qui est passé en loupe. Nous sommes à 10 mois des élections. Il est donc logique que tous les partenaires liés au processus jettent un regard sur l'avancement du processus. Maintenant, la question, c'est que les élections, ce n'est pas le but en soi. Le but des élections, c'est de nous aider à avoir la stabilité politique après. Et donc, il y a des inquiétudes qui sont soulevées par les partenaires, notamment liés sur les mesures de confiance, que certains appellent des crispations, et puis sur le respect de calendrier. La question que moi je me pose, c'est comment concilier à la fois cette recherche de confiance et le respect du calendrier, parce qu'on voit les nombres de préalables qui commencent maintenant à être soulevés. Je crains que malheureusement, cette recherche de confiance puisse bouger le calendrier électoral. Si vous prenez par exemple la CENI, que nous avons aujourd'hui est la configuration du rapport de force politique que nous avions en 2010-2013-14. Et donc, si on doit aujourd'hui redynamiser la CENI, tenant compte des composantes telles que nous avons, la bataille politique aujourd'hui n'est plus institutionnelle. Nous avons notre rapport de force qui ne correspond plus au rapport de force dans le Parlement. Ça veut dire qu'il faudra rediscuter entre composantes pour avoir un reflet du rapport politique d'aujourd'hui. Ça va nous attirer encore un temps. Si on prend la problématique de l'expertise de la machine à voter, c'est vrai que la question de la machine à voter est une question très sensible. Même les pays de vieille démocratie comme la France, parce que la France a commencé à appliquer la machine à voter depuis 1959. C'était des scrutins parlementaires. Puis ils sont allés par palier pour jusqu'à arriver au présidentiel en 2007. Malgré ces 50 ans d'expérience, cette machine est toujours contestée en France. Et donc comment chez nous on peut en une année mettre en place tous ces dispositifs assez complexes sans qu'il y ait de controverses? Il y a cette question-là qui se soulève. Maintenant, faut-il remettre cela aux experts? Ce débat entre les mains des experts, l'expert n'est jamais neutre. Il n'y a pas d'expert neutre. Le savoir n'est jamais neutre. Donc demain, on ne va pas contester l'expertise de l'expertise envoyée. Puisque nous avons une expertise locale portée par la CENI, qui semble aujourd'hui être remise en question, nous voulons une expertise internationale, expertise contre expertise, jusqu'où nous allons aller. Je crois que, à force de vouloir à la fois concilier cette volonté de mise en confiance et le calendrier, on va aboutir forcément sur le fait qu'on va manquer une de bras plutôt. Soit on privilégie le respect du calendrier avec ses limites très restrictives, soit on privilégie la mise en œuvre totale des conditions préalables, et dans ces cas, on va bouger le calendrier. Je crois que c'est le dilemme dont on se pose, et à 10 mois des scrutins, il faudrait que les partenaires se mettent d'accord sur ce qui sont les priorités de la nation.
Et pour vous, c'est quoi les priorités? N'est-ce pas tenir compte de tous ces préalables, n'est-ce pas, qui ont été formulés par des experts?
Si nous estimons
la décrispation des politiques.
Si nous estimons que la mise en œuvre de tous les préalables sont prioritaires, nous devons être conséquents politiquement. Si nous estimons que le respect du calendrier est prioritaire, nous devons également être conséquents. Parce qu'il y a un choix politique à faire.
Et donc, la position des évêques peut gêner le respect du calendrier électoral.
S'il faut prendre la position comme une volonté de pousser vers une amélioration du processus, oui, ça peut aider à réaliser bien les élections. Mais s'il faut le prendre comme des préalables fixes qu'il faut tenir à coup sûr, le calendrier ne sera pas respecté.
Alors, le fait que l'Église protestante se joigne pratiquement à cette lutte des catholiques pour dénoncer certaines injustices, cela peut augurer quoi pour le pouvoir de Kinshasa?
Bon, l'Église a une mission prophétique, comme le disent les prêtres. Il est donc normal que les prêtres ou les clergés fassent un regard critique sur l'ancienneté. Tout à fait logique. Il me semble que l'Église protestante, dans son point de vue, a adopté une ligne assez modérée. Parce qu'elle semble garder confiance encore en la CENI, et cette confiance ne sera rompue que si au mois de décembre, il n'y avait point des élections. C'est ça le point de vue de l'Église protestante. Mais par contre, l'Église catholique, qui, certainement avec l'expérience du dialogue qu'elle a conduite, semble, je dirais, plus critique à l'égard de la majorité présidentielle.
Alors, dans les deux déclarations, celle des protestants et celle des catholiques, l'on dénonce l'intolérance, la répression des manifestations pacifiques. Et nous sommes à quelques jours de la marche prévue le 25 février prochain. Est-ce que ces différentes dénonciations pourraient positivement influencer, n'est-ce pas, l'attitude des policiers le dimanche prochain?
Je crois que c'est davantage la pression internationale qui certainement va pousser la police et les services de sécurité à être plus professionnels. Parce qu'on a vu une pression internationale assez forte qui a même poussé le chef de l'État à réagir sur un point de presse. Il n'est pas très habituel des points de presse, on l'a suivi, parce que la pression est énorme. Et je pense que l'Église a quand même réussi à mettre la pression en interne. Nous avions une opposition qui dormait déjà, à mettre la pression sur le régime et à pousser cette communauté internationale à mettre la pression également sur Kinshasa. Bien, maintenant le 25, la particularité, ce que je constate, c'est que pour une fois, l'Église a annoncé une marche 2 semaines avant. Le temps, il était plus long que d'habitude. On a toujours eu de marches programmées de manière très courte. Pour la première fois, on a eu une programmation un peu plus longue. Est-ce un appel de pied lancé auprès du régime pour que des actes, des gestes positifs soient posés? Nous sommes en train de voir le gouvernement également poser quelques actes. On nous a promis la libération d'ici peu de quelques politiques. Il semble que le fait que l'Église ait fixé la marche 2 semaines avant a poussé du côté gouvernement à ce qu'on ait des gestes d'apaisement pour nous conduire vraisemblablement vers un compromis. Mais ce sera difficile parce que la détermination qu'on semble lire au sein de l'Église pousse le gouvernement à aller jusqu'au bout.
Monsieur l'abbé Bomengola, il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir, elle vient de Bukavu, c'est qui vous?
Abamungu Bandibouza, à partir de la ville de Bukavu, face à une majorité incapable de respecter les accords auxquels elle a consenti librement et qui semble n'écouter que la voix de la force, face à une opposition presque affaiblie et désunie, une union sacrée de l'Église me paraît l'une des forces capables de fléchir le régime de Kinshasa. Pour plus d'efficacité, les deux églises auraient dû constituer un communiqué conjoint et programmer les activités conjointement. Cela permettrait non seulement de faire une pression suffisante au gouvernement congolais, mais aussi de canaliser la force nécessaire pour ce chemin à la CENI et aux frères de la majorité. Faudrait-il une pression interne et externe pour savoir que la machine à voter ne met pas d'accord tous les acteurs politiques, voire une partie importante de la population? Pourquoi toujours attendre les prisons du sang pour comprendre que le peuple a soif d'une véritable démocratie et un respect strict des accords? Il est encore temps que l'homme politique congolais au pouvoir revienne à la raison et sinon que toutes les forces vives de la nation s'unissent autour d'une même structure
envie de défendre notre démocratie chèrement acquise.
Oui, monsieur l'abbé Bomengola.
Oui, merci de m'accorder la parole. Je pense que l'intervention de ce monsieur est fondée. J'ai suivi, j'ai lu sur votre site les souhaits du président de l'ECC qui dit que si on souhaite que l'ECC s'engage, il faudrait que...
Il faut au préalable contacter la communauté protestante.
Voilà, contacter la communauté protestante. Et je constate maintenant que le mouvement initié par les comités laïcs de coordination qui, dans un premier temps, a opéré avec les chrétiens catholiques, s'ouvre davantage. Donc, il n'y a plus que les chrétiens catholiques seuls. Il y a des gens qui viennent de toutes sortes de religions. Et je crois que les comités laïcs de coordination auraient intérêt à s'ouvrir à toutes ces autres membres, enfin, toutes ces autres églises qui soutiennent ce mouvement pour qu'ensemble, ils puissent coordonner cette action, tout en sachant que c'est ces comités qui est en première ligne et que c'est lui qui coordonne les choses. Mais je crois qu'il y a intérêt à s'associer avec d'autres, à collaborer avec d'autres pour organiser un mouvement national et pourquoi pas un mouvement de tous les Congolais.
Vous avez suivi le pasteur Makolo Kotambola qui dit que personne ne vous dénie les droits, en fait, ne dénie aux évêques les droits de parler lorsque les choses ne marchent pas. Mais lui dénonce, n'est-ce pas, les menaces contenues dans vos déclarations. Hein, lorsque vous dites vous n'allez jamais abandonner, lorsque vous évoquez les termes tels que médiocre et tout ça, il pense que c'est des menaces.
Oui, bon, lui, il a son point de vue, mais je pense que le pasteur a comme l'impression, il donne l'impression que ce pays appartient à une minorité, alors que le pays nous appartient à nous tous. Nous avons le droit de parler pour notre pays lorsque ça ne va pas. Donc, on ne doit pas nous priver ces droits-là. Et aussi, j'ai entendu le pasteur dire que la seule mission de l'Église, c'est d'amener les gens au ciel. Mais ces gens que nous amenons au ciel, pardon, ils passent par la terre. Et si aujourd'hui on se bat parce qu'on est sur terre, on n'est pas encore arrivé au ciel. Et donc sur terre, cet homme doit vivre, vous comprenez un peu? Et il faut lutter pour que ses conditions de vie s'améliorent. Donc on ne doit pas passer de la naissance au ciel directement, il faut passer par la terre. Et par la terre, il y a une organisation sociale, il y a un pays, un gouvernement, et il y a des structures, il y a des lois. Et c'est ça qui fonde les vivre ensemble et qui permet les vivre ensemble. Et donc, pour que nous puissions vivre ensemble, il faut que nous tous qui habitons dans un pays, nous puissions tous respecter les lois du pays. Il ne faudrait pas que certains les respectent, les autres ne les respectent pas. Non. Et il faudrait aussi que dans un pays, tout le monde se retrouve et qu'il se sente chez lui. Il ne faudrait pas que les institutions du pays soient prises en otage par une minorité.
Et alors, au sujet des élections, vous avez suivi le politologue Moleka qui pense que les préalables que vous évoquez sont susceptibles, n'est-ce pas, de retarder l'organisation des élections.
Non, c'est pas vrai. Ça, je vous dis tout de suite que c'est pas vrai. Parce qu'il y a des préalables qui doivent être remplis par des institutions concernées et il y a des préalables qui doivent être remplis par le gouvernement. Et donc, on ne peut pas dire que ça va retarder quoi. Moi, je vais vous lire ou relire.
Quand vous parlez de la redynamisation de la CENI, ça, oui. On sait que les tractations prennent toujours beaucoup d'État et ça va impacter inévitablement sur le processus électoral.
Je vous explique. La redynamisation de la CENI, il ne s'agit pas de tout recommencer. Non, impossible maintenant. Il était question que chaque parti politique puisse changer ses membres qui sont ou qui font partie de la CENI. Mais il y a des partis politiques qui pensent que leurs membres peuvent rester. À ce moment-là, ça ne pose aucun problème. Mais maintenant, par exemple, on a un problème avec l'IDPS, je crois, qui voulait récupérer ou retirer son membre qui est là-bas. Mais il y a un problème qui se pose. Tout ça. Donc, quelque part, si la CENI ne restaure pas la confiance, ça biaise aussi voilà. Le processus.
Monsieur le pasteur Makolo Kotambola, nous allons suivre sous cette réflexion à laquelle vous allez réagir.
Mais...
Patient Biamungu Rukuba depuis la ville province de Kinshasa. Faire des déclarations est une bonne chose. Les doter de mesures d'accompagnement en cas de récidive serait une très bonne chose. Ceci dit, je devrais savoir si de par ces deux déclarations qui se marient, l'Église catholique a abandonné son processus de marche pacifique ou bien c'est l'Église protestante qui a trouvé nécessaire de se joindre à celle catholique pour une seule cause, la libération du peuple de Dieu dont ils ont la responsabilité, acte qui serait rassurant selon moi. Le contraire, leur déclaration serait lettre morte et ils n'auront que leurs papiers et stylos pour demander les élections à une date ultérieure au 23 décembre ou dénoncer les dégâts causés par ces machines décriées par les pays qui en ont déjà expérimenté. À des grands mots, des grands remèdes, dit-on, l'ère des déclarations est révolue, place aux actes de grande envergure.
Oui, Makoloko Tambola, est-ce que cet auditeur n'a pas répondu à vos préoccupations lorsque vous dites que dans les déclarations des évêques, il y a une sorte de menace? Lui pense qu'à des grands mots, des grands remèdes.
Non, mais d'abord, écoutez, on dit marche. Marche le dimanche prochain. Mais pourquoi? Pour réclamer quoi? Réclamer l'organisation des élections? Elles auront lieu.
L'application intégrale de l'accord.
Réclamer l'application intégrale de l'accord? Mais l'accord a prévu qu'il y ait un premier ministre issu de l'opposition Rassemblement. Le premier ministre issu de l'opposition Rassemblement est là. L'accord a prévu qu'il y ait un CNSA. Auquel on a voulu confier, lequel on a voulu confier à Étienne Tshisekedi, paix à son âme, Dieu l'a repris. Mais maintenant, il y a un CNSA dirigé par quelqu'un de l'opposition, Rassemblement. Quoi, la décrispation de la vie politique. Il y a une série de libérations et il y en aura aussi, même si de temps en temps nous devons nous poser la question du respect des victimes aussi.
Parce et donc que vous pensez qu'il n'y a pas de raison d'organiser ces différentes marches.
Mais pourquoi la question c'est celle de savoir pourquoi organiser des marches? Parce que vous dites vous-même.
Mais cela ne doit pas justifier la répression, n'est-ce pas, de la police face aux manifestants.
Écoutez-moi très bien. Personne ne justifie la répression. Tout ce que nous disons à nos frères de l'Église catholique, c'est que j'ai un document ici qui est l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo, signé le 20 mai 2016. Dans cet accord cadre, on dit que les lieux de culte ne peuvent pas constituer l'endroit où on organise autre chose que la prière.
Vous voulez dire quoi par là?
Nous voulons dire que ce qu'a dit Marc Kabound quand il a défini ce que mon frère appelle le CLC. Marc Kabound a dit l'Église catholique nous a donné l'endroit. Le secrétaire général de l'UDPS. Il faut écouter ça. Et c'est gravissime. Quand il dit ce qu'on appelle CLC, en réalité, ça ne sont pas des laïcs. L'Église nous a donné la paroisse. Nous, on a amené nos combattants. C'est-à-dire que dans ce que vous appelez laïcs, en réalité, c'est des combattants. L'Église a failli par rapport
vous
à la
fiez pas, vous ne vous fiez car... pas à la mise au point de l'Église. L'Église a dit que, non, qu'elle n'est pas inféodée aux hommes politiques.
Ce qui est terrible, c'est qu'il y a des mots. Mais à côté des mots, il y a des actes. Je crains, je le déplore que l'Église se permette à mentir. Voilà. Parce que ce qui est ici, c'est que on essaye de justifier l'injustifiable. La Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Merci. Mon frère veut dire que quand un évêque traite les autres de médiocres, il prononce des belles paroles,
merci,
des paroles de paix, non.
Merci,
c'est pour vous dire que quelque part, nos frères ne veulent pas qu'on ait les élections en 2018. Je salue d'ailleurs les propos de mon frère de gauche. Donc, ils ne veulent pas qu'on ait les élections.
On va revenir
ils
à
veulent
vous.
Créer les désordres dans le pays.
On va revenir à vous, le temps de donner la parole à Christian Moleka.
Ce pays ingouvernable.
On a compris. Christian Moleka
n'aura pas lieu parce que nous aurons les élections.
Giovanni Bianco de Picoloisi dans la province de Lualaba. Les revendications tout azimutes de la CENCO et de l'Église protestante s'avèrent salutaires dans la perspective où l'opposition politique congolaise baigne indubitablement dans l'océan de l'ostracisme. Cependant, l'accord de la Saint-Sylvestre étant devenu le cantique universel pour retrouver le boulevard qui mène à la décrispation, il va de soi que les prélats soient écoutés sans aucune tergiversation par tous les acteurs politiques de la majorité et de l'opposition afin de favoriser une issue voulue et attendue tant par le peuple congolais que par la communauté internationale.
Monsieur Christian Moleka.
Oui, je crois que notre ami a totalement raison. Si vous suivez le discours du responsable de l'église de SCC, il dit que nous sommes dans une période de gémissement. On pourrait comparer ça à une période de travail pour une femme. C'est une période très délicate. On peut soit accoucher d'une bonne démocratie, soit on peut malheureusement finir avec un décès entre les mains. Je crois que le pays est dans une phase très compliquée, très complexe et très cruciale pour notre histoire. Et qu'aujourd'hui, le fait que tous les acteurs, en tout cas on suit les communiqués, veulent que nous aboutissions par un processus électoral, c'est une bonne chose. Il y a une convergence au niveau de l'Église catholique lorsqu'ils disent qu'il faut aller vers les élections, qu'ils soient les CC ou au niveau du Conseil de sécurité. Maintenant, tous les acteurs qui sont partie prenante dans cette mise en œuvre ont un élément de contribution à apporter. Et s'il faut prendre les avis de l'Église comme, je dirais, des coups de bourrade pour bousculer les acteurs, c'est une bonne chose. Parce que ça nous permet d'améliorer les processus. Mais si on reste dans une logique littérale, où chaque prescrit doit être appliqué, tenant compte du temps qu'il nous reste, ce serait un peu compliqué. C'est pourquoi je dis que les points de vue de l'Église est une très bonne chose, parce qu'il permet d'avoir un réveil de la conscience de tous les acteurs, une remise en question de tous les acteurs de la classe politique sur toutes les questions, notamment la répression, la liberté d'expression. Et d'ailleurs, vous verrez que il a fallu qu'il y ait ces mouvements pour qu'aujourd'hui on dise, voilà, il nous faut refaire la loi sur les manifestations publiques. Donc, quelque part, ces mouvements nous ont aidés à avoir à la fin de mars une nouvelle loi qui puisse mieux réguler le jeu démocratique. Maintenant, il faut encadrer ces mouvements dans la logique de nous conduire vers les élections, vers le processus électoral, parce que si on reste pas dans la logique de l'objectif final, on va se perdre en chemin.
Alors, à votre avis, ça sera sous votre conclusion, comment faire pour harmoniser cette divergence des perceptions entre d'un côté le pouvoir et de l'autre côté les catholiques? Les catholiques qui estiment que l'accord n'est pas appliqué, le pouvoir, vous avez suivi monsieur Makolo Tamola, qui pense que l'accord est bel et bien appliqué. Alors, comment concilier ces divergences, n'est-ce pas, des perceptions?
Elle dit pas que l'accord n'est pas appliqué, elle dit qu'elle est appliquée partiellement et de manière biaisée. Donc, certainement qu'il y a des griefs, un certain nombre de griefs qui sont en train de relever et qui peuvent...
Et la société, c'est quoi?
Je crois qu'on a aujourd'hui besoin d'un processus politique qui soit apaisé et que tous les acteurs parties prenantes doivent participer, chacun en amenant ces éléments de contribution pour que nous puissions aboutir à un processus de paix. Et si l'Église peut soulever ces éléments de décrispation tel qu'on le voit déjà, ça s'est fait aujourd'hui, ça peut nous amener vers les élections.
Monsieur l'abbé Boumengola, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour sortir de cette crise?
Bon, je crois que pour sortir de la crise, les cadres étaient bien tracés. Vous vous souviendrez que lorsque nous étions au dialogue du centre interdiocésain, les acteurs politiques de tous bords s'étaient retrouvés. Et entre eux, ils avaient défini les cadres et même balisé les terrains pour qu'on ne puisse pas avoir des problèmes et qu'on puisse...
Et donc, pour vous, il faut revenir à l'accord?
Je pense que l'accord a donné beaucoup d'éléments qui puissent solutionner le problème.
Vous venez de dire, M. Makolokotamola, qui estime qu'il n'y a pas de problème, l'accord est appliqué.
En fait, il se retrouve lorsqu'il est bien. Il pense que bon, les autres aussi sont bien. Non, je crois que moi j'ai participé à ces discussions. Et j'ai même l'accord avec moi. Il y a beaucoup de dispositions qui ne sont pas appliquées.
Merci.
Et donc
voilà. Merci. Nous sommes à la fin de l'émission. Monsieur Makolo Kotamola, la conclusion, la solution, c'est quoi?
La conclusion, c'est que je crains que l'Église catholique soit un instrument au service des ennemis du pays. C'est-à-dire qui veulent rendre ce pays ingouvernable, avec des manifestations et des marches dont le pays n'a pas besoin.
Merci.
Il faut la paix pour que nous allions aux élections à la date voulue.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci et bon saut de programme sur Radio Capi.